Les podcasts du Collège de France, Histoire.
J'avais donc placé mes explications de la semaine dernière qui étaient consacrées à l'émergence d'un nouveau style autobiographique à la fin de la dynastie des Ming, sous le signe de deux notions que j'ai formulées de façon un peu provocante ou accrocheuse, à savoir la désinhibition et la démocratisation. Pour parler en termes plus simples, et concernant la première notion, je vous avais donné des exemples d'écrits autobiographiques dans lesquels les auteurs n'hésitent plus à se regarder d'un œil critique et à faire part de leurs doutes ou même de leurs échecs. Donc j'avais plus précisément mentionné premièrement l'autobiographie de Xu Zhetiao, de Xu Zhetiao, qui s'appelle donc, on verra le titre complet, mais c'est un Xu Époux. La chronique, si on veut, d'un apprentissage. Le Xu Époux de Xu Zhetiao, qui couvre la période 20 ans exactement, entre 1610 et 1630. Et donc, dans ce texte, Xu Zhetiao parle à maintes reprises et avec un détachement qu'on ne rencontre jamais dans les autobiographies de type plus traditionnel, de ses doutes et de ses hésitations concernant la carrière publique dans laquelle il est engagé. Je n'en ai parlé qu'en passant parce que je reviendrai dans quelques temps, la semaine prochaine ou la semaine d'après, sur ce texte très long, passablement difficile et, encore une fois, d'une franchise assez inhabituelle dans ce genre de littérature. Et ensuite, j'avais évoqué, non pas de première main cette fois-ci, mais en me basant sur un article de Lynn Struve, dont je vous avais donné la référence la semaine dernière, le journal tenu par un certain Xue Cai, entre 1642 et 1646, donc au moment de la chute des Ming et de la conquête mandchoue. Un journal dans lequel, comme nous l'avons vu, l'auteur laisse clairement transparaître, un sentiment obsédant de culpabilité que lui cause son défaitisme et son refus de s'engager dans la lutte finale, en quelque sorte, juste avant la chute des Ming et au moment de la conquête. Alors que, étant donné son statut d'ancien fonctionnaire et aussi étant donné les services éminents que ses ancêtres avaient rendus à la dynastie des Ming, son devoir semblait tout tracé. Bref, il n'a pas été, il ne le dit pas en toutes lettres, mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas été loyal, Zhong, c'est-à-dire loyal au régime, et d'un certain point de vue, par rapport à ses ancêtres, il n'a pas non plus été filial. Et tout cela lui cause visiblement beaucoup de tourments. À propos de ce journal de Xue Cai, je dois signaler une erreur que j'avais commise en écrivant le titre de l'ouvrage au tableau, qui est... le titre est donc Xue, et le nom de l'auteur donc est donné avec son nom social, comme on dit, qui est Xie Meng. Et j'avais écrit Meng le rêve, ce qui avait suscité une question en plus. Et en fait, c'est un autre Meng. C'était vraiment une faute de frappe. C'est ce Meng-là. Xue Meng, et non pas Meng le rêve. Autrement dit, s'il faut vraiment interpréter, parce que souvent, quand on se donne un nom social, on veut lui donner une signification, bien sûr, je ne sais pas exactement, mais Xue Meng, écrit comme ça, ça pourrait être en accord avec Mencius, alors que, en harmonie avec Mencius, alors que Xue Meng avec le rêve, ce serait en harmonie avec ses rêves, ce qui, effectivement, aurait collé avec le contenu du livre qui parle beaucoup des rêves. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, voilà bien des textes autobiographiques dans lesquels on rencontre, et je crois qu'on peut le dire, un ton de confession, et qui plus est de confession sincère, entre guillemets, et non pas comme dans la rhétorique convenue de la modestie proclamée, de l'auto-accusation qu'on rencontre si souvent dans ces textes à la première personne, et qui ne sont dans ces cas-là pas vraiment sincères. Et c'est ça le point important, et c'est en cela que je crois qu'on peut dire qu'il n'y a plus d'inhibition à parler de ces vrais problèmes. Mais en parler à qui ? Et là, je voudrais revenir brièvement, enfin, en quelques mots, sur une question que j'ai commencé à évoquer la semaine dernière, qui est celle des intentions de l'auteur ou de ses proches en matière de publication de ce qu'il a écrit sur lui-même. Prenons par exemple l'autobiographie de Xu Zhetiao. Elle a été publiée par un de ses fils, semble-t-il en 1633, soit 2 ans après la mort de l'auteur. En tout cas, cette date de 1633 est donnée, c'est ce qui date le travail de révision, c'est-à-dire tiens, ou collation ou révision, tout simplement. par un des fils de l'auteur, donc il a révisé le manuscrit en vue de la publication, et en effet la mention d'une telle révision, d'un tel tiens, indique toujours l'intention de faire graver et imprimer le texte. C'est une démarche de publication. Donc on trouve ça daté de 1633. En revanche, le journal de Suépou, donc cet homme qui avait un fort sentiment de culpabilité, est toujours resté dans sa famille, comme d'ailleurs c'est la plupart du temps le cas des journaux écrits au jour le jour par des auteurs, sous forme de manuscrits. Et lorsqu'il a été finalement publié, par les soins de certains de ses descendants, on était en plein XXe siècle, et le journal de ce lointain ancêtre n'était plus qu'un objet historique. La différence de nature entre ces deux textes, donc l'autobiographie de Xu Zhetiao et le journal de Suépou, la différence de nature entre les deux textes explique pour une large part cette divergence dans leurs destins éditoriaux. Le journal de Suetsai est incontestablement un journal intime, une sorte de confident, que seuls ses proches auront éventuellement vocation à lire, et peut-être d'ailleurs seulement après sa mort. Par contraste, l'autobiographie de Xu Zhetiao, on le verra le moment venu quand j'en parlerai plus en détail, peut à beaucoup d'égards être considérée comme une autobiographie professionnelle. Et ce serait alors un exemple unique sous les Ming, d'un genre, donc ce genre de l'autobiographie professionnelle, qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, est un genre que j'ai moi-même, dégagé de l'ensemble de la littérature, d'un genre dont tous les titres que j'ai identifiés, qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont importants, datent de l'extrême fin du XVIIIe siècle ou alors du XIXe siècle. Autrement dit, ce serait un exemple unique sous les Ming. Et un détail significatif, c'est qu'on peut lire dans la préface de l'autobiographie de Xu Zhetiao, une préface qui est due à un personnage qui se présente comme son disciple de longue date, on peut lire que le manuscrit servait de livre de chevet à l'un des fils de Xu Zhetiao, qui le détenait donc depuis la mort de son père, avant qu'il ne se décide à le faire imprimer sur le conseil du préfacier. Et ce qui est aussi significatif, c'est que, et c'est ce qui apparaît sur cette photocopie que je vous ai distribuée, c'est qu'après le titre, au début du texte, de façon tout à fait banale, on a donc, c'est le début du premier chapitre, on a le titre du texte, ensuite on a l'indication de l'auteur, donc Xu Zhetiao, et en dessous, on a 3 personnages qui sont ses fils, d'ailleurs c'est Nan, hein, ça veut dire ce sont ses fils, qui sont donc énumérés de droite à gauche et je suppose par ordre de seniorité. Et le caractère d'en dessous dit écrit, donc le caractère après le nom de Xu Zhetiao dit qu'il est l'auteur, Zhu, hein, rédigé par. Et en dessous des 3 fils, on a le caractère Du qui signifie lu par ces 3 personnages. Et donc non pas collationné. Or, dans une en-tête de chapitre, normalement, qui se présente de cette façon, les personnages qui sont indiqués en dessous du nom de l'auteur sont toujours des collateurs, des réviseurs, etc. Et non pas juste des gens qui lisent. Ce qui, à mon avis, indique que, effectivement, c'était conçu pour être un ouvrage donné en lecture aux membres de la famille de l'auteur. Et l'indication « tiao », c'est-à-dire collationné, le caractère que j'ai écrit, qui est suivi du nom du deuxième fils, c'est-à-dire Xue Yingyu, qui est suivi du nom du deuxième fils, se trouve tout à fait à la fin du dernier chapitre, et donc avec cette date de 1633. Tout ceci Surtout ce mot doux qui m'a intrigué, tout ceci suggère un modèle qui est en fait très fréquent dans le cas des manuels pour fonctionnaires, dont j'ai souvent parlé, et dont je considère que les autobiographies professionnelles sont une sorte de sous-ensemble. Et dans ce modèle, un auteur rédige un texte dans lequel il fait état de sa carrière et de ses expériences, dans le but explicite, c'est en général dit dans les préfaces, dans le but d'instruire et de se donner en exemple à ses fils et à ses petits-fils. Et ce n'est que dans un second temps que le même auteur, toujours comme il l'explique dans la préface en général, que le même auteur se décide à imprimer le texte sur l'insistance de tous ses amis et de tous ses admirateurs qui lui ont expliqué qu'il était indispensable de faire profiter d'un texte aussi important tous les collègues, tous les gens qui partagent les mêmes idéaux, et on les appelle en général des tongjeux, qui est le mot qu'a signifié ensuite camarade sous le régime communiste. Je ne crois plus qu'il y a beaucoup de gens en Chine populaire qui s'appellent entre eux camarades, mais c'est un vieux mot qui désigne des gens donc, qui partagent un même idéal. C'est donc exactement ce qu'on a ici, dans le cadre de l'autobiographie de Xu Zhetuo, sauf que ce n'est pas l'auteur lui-même, mais c'est un des fils qui prend la décision de publier après la mort de l'auteur. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que dans le cas présent, ce texte qui est désormais public et accessible en dehors de la famille, puisqu'il a été imprimé, n'est pas seulement une autobiographie professionnelle. Le texte, en effet, inclut au passage toutes sortes de données sur la vie privée de l'auteur, et aussi, et c'est pour ça que j'en ai parlé, toutes sortes de réflexions et de ruminations qui sont d'ordre strictement personnel et qui, d'une certaine manière, entrent en dissonance avec l'idéal type du fonctionnaire irréprochable, totalement dévoué à sa mission et qui n'a pas de doute, en quelque sorte. De telles réflexions impliquent, comme je l'ai dit, un certain recul de l'auteur par rapport aux événements qu'il décrit et à sa carrière. Ces détails quelque peu techniques dont je viens de faire état, autrement dit comment et où exactement sont désignés l'auteur, les éditeurs et avec quels mots d'un texte, ces détails requièrent, c'est un point que je tiens à souligner, un examen attentif des textes dans leur matérialité même et autant que possible dans leur état original et non pas, bien sûr, dans une édition moderne recomposée, réimprimée et souvent ponctuée. Dans le cadre de l'autobiographie de Xu Zhetuo, dont vous avez ici la première page, j'ai pas vu l'original, dont il n'existe qu'un seul exemplaire, semble-t-il, conservé à la Bibliothèque nationale de Taïwan, mais j'ai travaillé sur un microfilm de cet exemplaire, apparemment unique, et bon, le microfilm n'est pas parfait pour un bibliophile, mais quand même, ça permet de voir la plupart des choses. Il faut donc regarder de près la façon dont se présentent les titres, sur la page de titre, quand il y en a une, dans le cas de cet ouvrage, il n'y en a pas, en début de chapitre, comme ce que nous avons vu, dans les marges centrales, donc cette marge qui est entre le recto et le verso, il faut également examiner, et souvent il y a des divergences entre les titres aux différents endroits, ce qui fait qu'on s'arrache les cheveux pour essayer de faire une généalogie d'une édition. Il faut également examiner les mentions d'auteur ou de réviseur, comme on a vu à l'instant, le lieu de publication, quand il est précisé, et c'est souvent le lieu où sont conservées les planches gravées qui permettent de faire des tirages. De voir aussi, il faut bien sûr examiner attentivement les préfaces et les postfaces, voir qui en sont les auteurs et ce qu'ils révèlent, parce qu'ils révèlent souvent des détails intéressants, sur les circonstances de la publication, et ainsi de suite. Dans le cas de l'autobiographie de Xu Zhetuo, toujours, l'aspect même de l'ouvrage, ainsi que certaines indications qu'on rencontre dans la préface, il n'y a qu'une seule préface, en l'occurrence, suggère nettement qu'il s'agit de ce qu'on appelle une édition familiale ou une édition privée, c'est-à-dire une édition qui a été réalisée aux frais de l'auteur ou de sa famille, et le plus souvent qui a été physiquement gravée et réalisée dans la résidence familiale. On invitait des ouvriers avec leur matériel. Autrement dit encore, c'est une édition qui n'est ni officielle ni commerciale, qui n'est pas destinée au marché. Des ouvrages fabriqués comme ça à la maison, si je puis dire, en général étaient distribués, tirés à mesure des demandes et distribués ou vendus au prix coûtant à des amis ou des relations ou des gens qui le demandaient. Très différent donc des ouvrages commerciaux qui étaient vendus dans des véritables librairies dans les grandes villes. Or, c'est pour ça que j'en ai parlé, les chercheurs se dispensent trop souvent d'examiner ce genre de choses. Ils considèrent que ce qui compte, après tout, c'est le contenu du texte et non pas sa présentation matérielle. Mais ils ont tort, car à travers de tels détails, on arrive à se faire une meilleure idée, comme j'ai essayé de le suggérer, des circonstances dans lesquelles a été décidée et réalisée la publication d'un texte, et donc des intentions qui ont présidé à cette publication et à d'éventuelles republications. Et j'ajouterai que ces détails, et même la qualité de la gravure et de l'impression, autrement dit, des choses qui disparaissent complètement dans une réimpression moderne, que ces détails aident à se faire une idée, pourrait-on dire, du statut du texte ou de l'édition en question au sein de la production écrite, qu'elle soit imprimée ou non, à son époque, et aussi de la diffusion qu'il était susceptible d'avoir. Et comme je le disais à l'instant, dans le cadre de l'autobiographie de Sujetio, où la qualité de l'impression et de la gravure est très moyenne, pas franchement mauvaise, comme beaucoup d'ouvrages commerciaux, mais très moyenne, il est à peu près certain que cette diffusion a été très faible, très confidentielle. Et c'est sans doute pour ça qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire existant aujourd'hui. En bref, un texte ne peut jamais être interprété comme si c'était une abstraction, indépendamment de son histoire éditoriale, quand on arrive à la connaître, et de sa réalité matérielle. Et je crois que ces choses sont d'une importance particulière concernant les problèmes dont nous sommes en train de parler. Elles sont importantes parce que un des points cruciaux concernant les écrits autobiographiques, un des points cruciaux, c'est de déterminer le degré de publicité que leurs auteurs entendent leur donner à ces écrits, le public auquel ils s'adressent, si c'est le cercle des proches ou un cercle plus large d'amis de confiance et de pairs pour lesquels on fera des tirages à la demande de la version imprimée, comme je viens de l'expliquer, ou alors le grand public anonyme. Et il s'agit non seulement du degré de publicité envisagé par les auteurs, mais aussi de la diffusion ultérieure qu'a parfois eu leur texte une fois qu'il leur a en quelque sorte échappé, puisqu'il a été imprimé. Et encore une fois, ce sont des choses que suggère parfois assez clairement la matérialité du texte dans ses réalisations successives. Mais je laisse maintenant ces problèmes de côté et j'en viens au deuxième aspect que j'annonçais et dont j'ai commencé d'ailleurs de parler la semaine dernière, ce que j'ai appelé la démocratisation du genre. Sujetio, aussi bien que Suetsai, que je viens de mentionner, sont des lettrés distingués, ils ont passé le doctorat, ils ont occupé des fonctions relativement importantes dans la bureaucratie et ils peuvent donc parler d'égal à égal avec les personnes de pouvoir. Ou au moins, même s'ils ne peuvent pas parler d'égal à égal, ils peuvent s'adresser à elle. Il n'est pas du tout incorrect de leur part de s'adresser aux gens du pouvoir. En revanche, Liu Zhuyu, c'est-à-dire l'auteur du Zhou Zhongzhe dont j'ai parlé la dernière fois, a certainement dont j'ai parlé la dernière fois, a sans aucun doute approché de, même indiscutablement approché de très près les puissants, mais c'était, comme nous l'avons vu, en tant que membre d'une autre sorte de bureaucratie, une bureaucratie mystérieuse aux yeux du public, et regardée avec la plus extrême méfiance par les lettrés et les fonctionnaires, donc la bureaucratie des eunuques du palais, qui faisait en quelque sorte l'interface entre l'empereur et les hauts fonctionnaires de la cour. Et comme je l'ai dit, cette condition d'eunuque place Liu Zhuyu aux antipodes de personnages, socialement parlant, aux antipodes de personnages comme Sujetio ou Suetsai, des gens pour qui les eunuques étaient la lie de la société. Le Zhou Zhongzhe, et c'est ce que j'avais expliqué, combine de façon originale une autobiographie et un témoignage sur l'organisation et le rôle des eunuques du palais. Par certains aspects, ce témoignage se présente en fait comme une sorte de traité systématique, quasi institutionnel, et en même temps très concret sur ce sujet. Mais il est bourré de détails et d'anecdotes. Il cite des documents inédits et des conversations Et de ce point de vue, il relève tout à fait de la catégorie dont j'avais parlé, dite des choses vues et entendues, des Tianwen. Or, nous avons vu et nous allons encore voir que les choses vues et entendues, les témoignages ne concernant pas directement l'auteur en personne, en d'autres termes, que ces choses en sont venues à occuper une assez grande place dans certaines autobiographies à partir de la fin des Ming. En tout cas, puisque nous parlons des intentions de l'auteur, aussi bien l'autobiographie de Liu Zhouyu que ses explications sur le rôle des eunuques avaient une visée clairement apologétique. Comme je l'avais également indiqué. Il s'agissait pour lui de se laver de l'accusation d'avoir été impliqué dans les crimes du fameux eunuque dictateur Wei Zhongxian sous le règne de l'empereur Tianxi, puisque Liu Zhouyu a en fait servi sous trois empereurs et les méfaits de Wei Zhongxian, il s'agit d'ères, ce qu'on appelle des ères de règne, et donc c'est une période chronologique, mais qu'on utilise pour désigner l'empereur lui-même. Donc ça, c'est Tianxi. Tianxi qui dit 1621 à 1627. Et le règne suivant, pendant lequel Liu Zhouyu est en prison, c'est le dernier règne des Ming, donc Chongzhen. Et Chongzhen. 1628 à 1644. Donc, le problème pour Liu Zhouyu, c'était d'expliquer, de s'innocenter, de toute complicité dans les crimes de l'époque Tianxi, alors que lui-même était en prison sous le règne suivant. Et en tout cas, le Zhuzhongzhi est le premier texte autobiographique conservé dans l'auteur, c'est pour ça que j'en parlais, dont l'auteur non seulement n'était pas un membre de l'élite lettrée, mais, encore une fois, appartenait à une catégorie regardée de haut par l'ensemble de la société. Et comme le dit Pei Wu dans le livre dont je vous avais parlé, dont j'ai remis la référence sur la feuille, comme il le dit, Liu Zhouyu s'était en quelque sorte approprié un genre qui était jusqu'alors réservé à des gens beaucoup plus distingués que lui. Et puisque j'ai évoqué tout à l'heure les problèmes d'édition et de destination des textes, il ne sera peut-être pas inutile, parce que c'est assez intéressant en outre, avant de passer à la présentation donc, de mon deuxième exemple d'autobiographie rédigé par un homme du commun, c'est-à-dire le Lin Yanxi, on va tout de suite en reparler, il ne sera pas inutile de dire quelques mots de la façon dont se situe le Zhuozhongzhi, donc l'ouvrage de l'eunuque Liu Zhouyu, de ce point de vue. Dans sa prison, ou depuis sa prison plutôt, Liu Zhouyu n'était évidemment pas en position de publier son texte, même s'il l'avait souhaité. En revanche, puisque son problème était de se justifier, son ambition était bien de faire en sorte que le texte arrive entre les mains du nouvel empereur, puisque seul ce dernier avait le pouvoir d'ordonner une nouvelle enquête et de l'innocenter. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il y soit parvenu et que l'empereur Chongzhen ait en effet lu l'autobiographie et le traité de Liu Zhouyu. C'est en tout cas ce qu'affirment certains auteurs plus tardifs cités par l'auteur, je l'avais déjà donné la dernière fois, mais j'avais oublié de dire ce que c'est, par Xie Guozhen, donc l'auteur de ses recherches sur les ouvrages historiques de la fin des Ming, qui est une somme, un grand classique, et qui donc a une entrée sur le Zhuozhongzhi, où il cite les opinions, et c'est là que je les ai trouvées, de plusieurs auteurs sur cet ouvrage. Et donc l'un d'entre eux affirme, un auteur du début des Qing, semble-t-il, affirme que l'empereur Chongzhen a effectivement lu l'autobiographie de Liu Zhouyu et que ça l'a convaincu que le malheureux n'était pas coupable. Et c'est ce qui expliquerait que, en fin de compte, en effet, Liu Zhouyu n'a pas été exécuté, bien qu'il semble avoir fini ses jours malgré tout en prison. Mais en dehors de cela, tout indique que diverses moutures de cet ouvrage ou de ce texte ont circulé sous forme manuscrite et sous des titres variés d'ailleurs, alors même que Liu Zhouyu croupissait encore dans sa prison et continuait de peaufiner et de perfectionner son texte. Il n'y a d'ailleurs rien de surprenant à cela, dans la mesure où cette description totalement inédite est faite, pour le coup, de l'intérieur de l'organisation du palais impérial, des fonctions des eunuques dans la cité interdite, de leur mode de vie et de leurs us et coutumes, sans parler de l'interprétation, sans aucun doute tendancieuse, de leur rôle politique et notamment des circonstances de la dictature de Wei Zhongxian. Tout cela donc piquait énormément la curiosité du public. Et on mentionne même une version imprimée qui serait encore conservée à la Bibliothèque nationale de Pékin, encore que je n'en ai pas trouvé la trace dans le catalogue, imprimée dès 1637, donc nécessairement partielle, puisque Liu Zhiyu a encore ajouté des choses pendant plusieurs années après 1637, et de même plusieurs autres éditions ou versions, recensions, également partielles et portant également des titres différents, ont circulé par la suite. Une de ces versions tronquées, d'ailleurs, qui ne porte même pas le nom de Liu Zhiyu, mais qui est attribuée à un éditeur, donc un autre nom, qui porte le nom de Mingongshi, c'est-à-dire tout simplement l'histoire du palais des Ming. Cette autre version a été recopiée dans le Seku Chuanshu, c'est-à-dire dans cette... Mingongshi, dans cette énorme encyclopédie manuscrite et contenant en principe en quatre trésors toute la littérature existante, du moins toute la littérature autorisée par les Qing, compilée et copiée en plusieurs exemplaires à la fin du XVIIIe siècle. Donc, dans le Seku Chuanshu, on trouve ce Mingongshi sans que le nom de Liu Zhiyu n'y apparaisse. Et en fait, il s'agit d'une version tout à fait tronquée qui ne retient, disons, de l'ouvrage que les sections les plus informatives, c'est-à-dire les sections qui portent sur l'organisation du palais et l'organisation de la bureaucratie des eunuques. Donc c'est là qu'on le trouve, bien que l'ouvrage de Liu Zhiyu lui-même, qui était connu, ait été censuré et interdit à l'époque des Qing. Enfin, pour terminer avec ça, je signale que la version complète du Zhuo Zhonglu, qu'on utilise aujourd'hui et que j'ai citée, a été publiée au milieu du XIXe siècle. Autrement dit, cet ouvrage un peu sulfureux a connu un certain succès éditorial, aussi bien sous forme manuscrite que sous forme imprimée. Mais ce succès, semble-t-il, a surtout reposé sur les informations hautement originales qu'il contenait, donc sur l'organisation du palais, etc., autrement dit, sur la partie choses vues et entendues, plutôt que sur son contenu autobiographique à proprement parler, plutôt que sur l'histoire personnelle de l'auteur. Les choses sont complètement différentes avec le Lin Yanji, autrement dit, l'autobiographie d'un nommé Yao Tingling, et je vous mets une fois pour toutes... Lignanti, je l'avais déjà écrit. Donc, cette chronique des années successives. Dont l'auteur s'appelait donc Yao Tinglin. Les choses sont donc complètement différentes avec le Lin Yanti, auquel je vais me consacrer à présent, et qu'on peut également considérer comme une de ces nouvelles autobiographies dont j'ai parlé, qui font leur apparition à la fin des Ming. Et à ce sujet, il faut quand même préciser que le Lin Yanti a commencé d'être rédigé par son auteur en 1668. C'est donc un texte du début des Qing, et non pas des Ming, mais comme on verra, il contient beaucoup de choses passionnantes sur les dernières années des Ming et surtout sur la conquête mandchoue, donc une période correspondant à l'enfance et à l'adolescence de l'auteur. Les choses sont complètement différentes, disais-je, d'abord du point de vue éditorial, du point de vue de l'histoire du texte, puisque le Lin Yanti est toujours resté à l'état de manuscrit et qui ne semble pas, avant l'époque moderne, être jamais sorti de la famille de l'auteur. D'après ce que j'ai cru comprendre en me basant sur les catalogues et les dictionnaires d'autobiographie chronologique auxquels j'avais fait allusion l'autre jour, il existerait en fait aujourd'hui deux manuscrits différents, l'un conservé à la bibliothèque de Shanghai et l'autre au musée de Shanghai. Et comme nous allons le voir tout de suite, l'auteur du Li Nianqi était un natif de Shanghai et il y a passé toute sa vie. Peut-être que l'un est le manuscrit original de l'auteur et l'autre une copie plus tardive, mais ça n'est pas très clair, même d'après ces outils de travail dont j'ai parlé. Et à cela s'ajoute apparemment, et je viens de le découvrir, un troisième manuscrit, donc une troisième copie, portant d'ailleurs un titre différent, qui serait, lui, conservé à la Bibliothèque nationale à Pékin, et qui, en outre, a été reprinté, enfin photocopié, mais dans une série que, malheureusement, nous n'avons pas ici, mais que j'espère bien faire acheter par nos bibliothèques, bien que ce soit extrêmement coûteux. Donc c'est frustrant de ne pas pouvoir le voir. Donc trois manuscrits en tout. En tout cas, la première version, la première édition plutôt imprimée du texte complet en tout cas, date, est beaucoup plus tardive puisqu'elle date de 1962 et a apparemment été réalisée par une association de conservation des souvenirs historiques de Shanghai. C'est une édition difficile à trouver. Mais par contraste, la seconde édition imprimée, dont le texte semble reprendre tel quel celui de 1962, également publié à Shanghai, mais cette fois-ci en 1982, cette seconde édition imprimée, elle se trouve dans de nombreuses bibliothèques. C'est celle que citent les quelques auteurs qui ont écrit sur ce texte, et c'est celle aussi à laquelle j'ai eu accès, et dont je conserve donc précieusement une photocopie. Cette version imprimée moderne ne reproduit pas la matérialité de l'original, pour le coup, puisqu'elle est ponctuée, d'abord. Elle est non seulement recomposée, c'est de la typographie, mais elle est ponctuée, et en outre, elle est en caractère simplifié. En revanche, les éditeurs précisent dans leurs notes liminaires qu'ils n'ont fait aucune coupure et qu'ils n'ont pas changé un seul mot, même en cas d'erreur manifeste. Et c'est un détail qui mérite d'être souligné, enfin, c'est un peu un de mes thèmes favoris, parce qu'un tel respect des textes originaux était loin d'être la règle en Chine populaire à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50 et au début des années 60. Et en fait, on ne compte pas les éditions, donc éditions modernes de textes anciens, datant de ces années, dont les responsables se vantent quasiment d'avoir coupé des passages qu'ils jugeaient sans intérêt pour l'histoire, ou alors des passages qui avaient le défaut, à leurs yeux, d'évoquer les superstitions, comme on dit, de l'ancienne société, ou alors qui préviennent qu'ils ont corrigé le texte ça et là quand ça leur semblait erroné. Et bien entendu, ils n'indiquent jamais les endroits où ils ont fait des coupures ou des corrections. Donc, l'édition moderne du Li Nianqi, au moins, ne souffre pas de ces comportements un peu barbares. Quoi qu'il en soit, et encore une fois, c'est ça le point important, quoi qu'il en soit, il s'agit là d'édition moderne d'un texte qui n'était pas destiné à l'origine à circuler. Contrairement à l'eunuque Liu Zhuoyu, qui écrivait pour être lu et lavé des accusations dont il se proclamait injustement victime, contrairement à Liu Zhuoyu, l'auteur du Li Nianqi écrivait pour lui-même, peut-être pour ses propres descendants, mais pas plus. Mais c'est également du point de vue non plus de sa destination, mais de son organisation et surtout de son contenu que le texte de Yao Tinglin est d'une nature entièrement différente du Zhou Zhongzhi. S'il fallait rapprocher les deux textes, je ne verrais en fait que deux choses. La première, c'est que, comme celui du Zhou Zhongzhi, l'auteur du Li Nianqi était lui aussi un personnage qui n'appartenait pas à l'élite lettrée, ou en fait qui n'y appartenait plus depuis longtemps dans ce cas, et qui s'est donc emparé d'un genre qui, autant qu'on sache, n'était pratiqué en temps normal que par des gens hautement éduqués. En l'occurrence, donc, ce genre, c'est l'autobiographie chronologique. Et la seconde chose qui rapproche les deux ouvrages, d'une certaine manière au moins, c'est le fait qu'une grande partie du contenu du Li Nianqi relève, comme dans le cas du Zhou Zhongzhi, de la catégorie des choses vues et entendues. Je veux dire qu'en plus de l'histoire d'une vie, c'est un témoignage, et un témoignage des plus étonnants, sur une époque et sur un lieu. Mais la comparaison ne va pas beaucoup plus loin, car dans le Li Nianqi, on peut dire qu'on est à des années-lumière du monde clos, du palais impérial et des intrigues de cour dont parle le Zhou Zhongzhi. Et en outre, l'intention de l'auteur, encore une fois, est tout à fait différente de la visée de Liu Zhuoyu, lequel, je l'ai déjà dit, voulait se justifier lui-même et aussi, d'une certaine manière, réhabiliter la corporation des eunuques. Je devrais encore ajouter, et c'est un point important, je devrais ajouter que l'auteur du Li Nianji se révèle, pour le coup, complètement désinhibé au regard des conventions qui régissaient traditionnellement le discours public des gens bien éduqués concernant leur propre personne et leurs relations avec les autres. Et ceci est particulièrement vrai de ce qu'ils disaient dans leurs autobiographies. La liberté de ton, le côté très direct du discours, et encore plus, je crois qu'on peut le dire, le réalisme du Li Nianji sont extrêmement frappants et ils en font, à mon avis, un texte unique en son genre. En fait, en dépit de sa structure bien particulière, donc celle d'une autobiographie chronologique, le Li Nianji n'est pas loin de se lire comme un roman. Il y a des passages franchement drôles, il y a des épisodes très dramatiques, il y a de longues descriptions des lieux et des objets. On est aussi frappé par un sens aigu de l'environnement matériel et des réalités économiques, toutes choses qui sont totalement absentes d'une autobiographie traditionnelle. Et il y a aussi une appréciation, encore une fois, réaliste de la psychologie et du comportement des gens. Si bien que les personnages qu'on rencontre, et il y en a beaucoup, qu'on rencontre dans le Li Nianji, surtout les parents proches de l'auteur, sont des personnages vivants, particulièrement quand il y a des disputes de famille. Mais je reviendrai là-dessus plus en détail la semaine prochaine. Une autre chose qui n'est pas sans rappeler certaines grandes œuvres de fiction, toute proportion gardée, bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas non plus de vouloir faire du Li Nianji une grande œuvre de la littérature chinoise. Malgré tout, ce qui me semble pas sans rappeler certaines grandes œuvres romanesques, c'est le côté, si je puis dire, fresque. Je veux dire, c'est la façon dont l'auteur, fresque historique, c'est la façon dont l'auteur, tout en nous parlant au jour le jour des aventures très ordinaires d'un certain nombre de personnages, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont rien de particulièrement remarquable, que ce soit lui-même ou les membres de sa nombreuse famille ou une quantité d'amis, de collègues et autres relations. Donc, tout en parlant au jour le jour de leurs aventures, il réussit en même temps à combiner cette chronique du quotidien avec le récit parfois très saisissant d'événements auxquels il a été mêlé de près ou de loin et d'événements qui relèvent, eux, de la grande histoire. Et le plus dramatique, évidemment, de ces événements, c'est sans aucun doute la conquête du Tian'an, donc du Bayantse, par les armées mandchoues et par leurs alliés chinois en 1645. Mais pendant sa longue vie, Yao Tingling a été témoin, ou même à son modeste niveau acteur, participant, de bien d'autres épisodes violents ou spectaculaires qui dépassaient largement sa propre personne. Et en outre, il évoque une quantité de bouleversements survenus dans l'environnement social, politique et économique dans lequel il a vécu. D'ailleurs, sur ce point, sur ces bouleversements, disons, sociaux, j'en redirai un mot tout à l'heure. Nous retrouvons donc là les deux dimensions dont j'avais parlé tout à fait au début lorsque j'avais précisé la façon dont je compte utiliser cette sélection un peu particulière de textes autobiographiques qui me servent de fil conducteur et dont le Li Nianji est certainement l'un des plus remarquables. D'une part, avais-je dit, examiner la façon dont les auteurs parlent de leur propre vie et de leur cadre familial, social, professionnel, etc. Autrement dit, et par définition même, le sujet d'une autobiographie. Et d'autre part, extraire de ces textes les témoignages exceptionnels, parfois très exceptionnels, qu'ils offrent, enfin que certains offrent, sur toutes sortes d'événements, d'institutions, de personnalités, de pratiques, de tout ce qu'on voudra, auxquels les auteurs ont été confrontés pendant leur vie. Analyser, si vous voulez, ce que ces témoignages apportent à l'histoire, ce qui suppose, entre autres choses, et ce que j'essaierai de faire sur certains points, de les mettre en contexte historique. La façon dont je compte procéder dans l'immédiat à propos du Li Nianji, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est de me limiter au premier aspect. Disons l'auteur et son milieu, car cela se rattache directement au thème que j'avais commencé de développer, ce que j'ai appelé la démocratisation de l'autobiographie. En outre, et toujours dans la même veine, le Li Nianji est une illustration extrême d'un autre phénomène que j'avais également évoqué lorsque j'avais parlé de l'envahissement de l'autobiographie par la vie privée, l'envahissement de l'autobiographie par la vie privée. Et j'entends bien la vie privée par opposition aux activités nobles, essentiellement publiques, qui forment le matériau ordinaire d'une autobiographie chinoise. La vie académique, le service de l'État, les activités littéraires ou artistiques, la participation à des réseaux de politiques ou des réseaux de savants, et ainsi de suite. Or, de tout cela, il n'y a quasiment rien dans le Lin Yanji, pour la raison bien simple que son auteur était quelqu'un de totalement ordinaire, aussi bien par ses activités que par sa position sociale. Sauf pendant les premières années de sa vie, et je vais y revenir, c'était ce qu'on appelle un pingmin, c'est-à-dire un homme ordinaire, un homme du commun. C'est donc de cet aspect, la vie privée, que je vais d'abord parler. Après cela, je remonterai quelque peu, et j'en parlerai surtout en détail la semaine prochaine. Après cela, je remonterai quelque peu dans le temps en abandonnant provisoirement le Lin Yanji pour revenir au Xuepu, à l'ouvrage, à l'autobiographie de Xu Zhetiao, qui combine également, mais de façon très différente bien sûr, la vie privée et la vie publique. Et aussi, d'une façon que je dirais peut-être involontaire, en tout cas ce n'est pas ce que recherchait l'auteur, qui combine également un témoignage pour l'histoire. Et je reviendrai ensuite au Lin Yanji, mais cette fois justement en l'étudiant en tant que témoignage historique sur les dernières années des Ming et les premières décennies des Qing, donc sur ce qu'on est convenu d'appeler la transition dynastique au sens large. Le Lin Yanji, donc. Le mieux, sans doute, est de commencer par fixer le cadre en donnant quelques indications générales sur le texte, sur les circonstances dans lesquelles il a été rédigé, sur les protagonistes et d'abord sur l'auteur lui-même. L'auteur du Lin Yanji, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'appelle Yao Tinglin. Il est né en 1628, ce qui est la première année du règne du dernier empereur des Ming, et il nous dit avoir entrepris la rédaction de son autobiographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1668. Il avait donc alors 41 ans à la chinoise. Et il est probable que, pour relater les premières années de sa vie, il s'appuyait, outre ses souvenirs, sur un journal, donc des notes prises au jour le jour, qu'il pourrait avoir commencé, enfin il y a des indices qui suggèrent qu'il pourrait l'avoir commencé de le tenir au moment, quand il avait une douzaine d'années. Il y a en fait, parce que c'est à partir de cet âge-là que ça devient très précis, chronologiquement, etc., il y a en fait très peu de choses sur les toutes premières années de la vie de Yao Tinglin, mais ça n'a rien de surprenant, c'est toujours le cas dans les autobiographies chronologiques. Donc il y a de très courts paragraphes pour les années où il était bébé, en quelque sorte, où en effet il n'a pas grand-chose à raconter. La préface que Yao Tinglin a donnée au Lin Yanji date également de cette même année, de 1668. Cette préface, en fait, est pour l'essentiel, s'appelle préface, tsushu, hein, mais pour l'essentiel, ça n'est rien d'autre qu'une énumération de ses ancêtres, dont il dit qu'il a puisé l'information dans la généalogie de son clan, c'est-à-dire dans le zupu, puisque tout clan qui se respecte avait, ou même tout clan tout court, avait ce qu'on appelle une généalogie qui, dans les cas les plus simples, donc un registre du clan, hein, littéralement, qui, dans le cas le plus simple, était en effet ce que nous appelons, nous, une généalogie, avec quelques indications sur les personnages, mais pour les grands clans, contenait des tas d'autres matériaux, des règlements, des biographies, enfin, etc. Donc, il a puisé cette liste d'ancêtres dans la généalogie des Yao, et comme on le fait toujours dans ce genre de liste, des générations passées, tout ce qui peut glorifier la famille est mis en valeur, c'est-à-dire qu'on mentionne, que Yao Tinglin mentionne dûment les titres et les distinctions des ancêtres chaque fois que c'est possible. Or, dans le cas de la famille Yao, ces ancêtres éminents ne sont en fait pas très nombreux. Et on ne saurait certainement pas parler, dans leur cas, d'une vieille famille mandarinale. On relève essentiellement dans sa liste un ancêtre qui aurait été médecin de cour ou médecin impérial, Yu Yi. Un médecin de cour d'ailleurs hautement apprécié sous deux empereurs des Ming, à savoir Xuanzong et Yingzong, soit dans la première moitié du XVe siècle, entre les années, disons, 1430 et 1470. Donc ces deux autres, bon, peu importe, mais je vous le marque donc deux empereurs successifs qui auraient été servis, ou en tout cas dans la cour desquels se trouvait cet ancêtre de Yao Tingning en tant que médecin impérial. Cet ancêtre aurait accompagné l'empereur Yingzong, pendant l'année de captivité que celui-ci a passée au nord de la Grande Muraille, après avoir été fait prisonnier par les Mongols au moment de la fameuse bataille de Tumu en 1449. C'est le nom au nord de Pékin d'un obscur relais postal où une énorme armée des Ming s'est fait proprement rosser par les Mongols qui sont repartis en emportant l'empereur avec eux. 1449 donc. Et au moment de la restauration de Yingzong à Pékin, quelques années plus tard, le médecin Yao aurait été en remerciement chargé d'honneur. Un autre des ancêtres de Yao Tinglin aurait été lui un fonctionnaire subalterne, donc pas un magistrat, mais enfin malgré tout un fonctionnaire, dans deux préfectures différentes. Et d'après ce que dit Yao Tingling, sa réputation d'humanité envers les prisonniers est encore célébrée aujourd'hui dans certains romans populaires qu'on peut trouver sur le marché. Puis vient la génération du grand-père de Yao Tingling, dont je parlerai dans un instant, où il y a cette fois-ci un fonctionnaire haut placé. Puis la génération de son père et enfin lui-même. Ce n'est en fait que dans les deux dernières lignes de cette préface que Yao Tingling indique le motif qui l'a poussé à entreprendre son autobiographie à l'âge de 41 ans. 41 souhaits. C'est en premier lieu, dit-il, pour évoquer les changements dont il a été le témoin et à propos desquels il affirme qu'il est difficile de ne pas être vivement impressionné. Les changements, dit-il à cet endroit, dans les affaires du monde, dans les sentiments des gens, Jensing de Lengnuan, c'est-à-dire là, littéralement le froid et le chaud dans ce terme polysémique, Jensing, les sentiments des gens, et là je crois qu'il s'agit vraiment de la mentalité des gens, on pourrait presque dire, ou le sentiment public. Ce sont ces termes qu'on lit en chinois qui vous paraissent tout à fait banals, et puis quand on veut vraiment les interpréter, on hésite, et ainsi de suite. Mais ce thème du changement, je vais y revenir plus en détail tout à l'heure. Ceci donc se passe, c'est ce qu'il disait, en 1668, lorsqu'il a rédigé la première partie de son autobiographie correspondante à ses 40 premières années de vie. Par la suite, Yao Tinglin a continué de remplir les pages de son récit en s'y remettant de temps à autre, comme il le dit quelque part, et là encore, très certainement en puisant dans son journal, car les faits qu'il relate sont d'une grande précision chronologique et souvent au jour près. Et comme je l'avais signalé la dernière fois, il met un premier point final à l'âge de 61 ans, toujours à la chinoise, autrement dit après avoir accompli un premier cycle de 60 années depuis sa naissance. Désormais, dit-il, je suis un vieillard. Mais il n'en a pas pour autant perdu le goût de témoigner, et comme il dit aussi qu'il était en très bonne santé, il a repris sa rédaction et il s'est finalement retrouvé avec une suite du Linianti, qui s'appelle donc le Xu Linianti, qui couvre 10 années de plus, donc jusqu'à ses 70 ans. Mais le texte s'arrête là, et il y a ajouté en guise de conclusion un essai, dont je redirai un mot tout à l'heure. Et en fait, on ignore combien de temps Yao Tingling a vécu après avoir mis ce point réellement final. Je disais tout à l'heure que Yao Tingling est un homme du commun, quelqu'un de tout à fait ordinaire. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Puisque nous parlions de changement, je crois qu'on peut sans aucun doute affirmer que le changement qui a eu le plus grand impact sur la vie de Yao Tingling, eh bien, c'est le déclin de sa propre famille, après qu'elle eût été ruinée au moment de la conquête mandchoue. Et pour lui-même, plus spécifiquement, c'est d'être passé de ce fait de la vie confortable d'un fils de famille mandarinal à la condition justement d'homme du commun, et qui plus est, d'homme du commun obligé de trimer pour gagner sa vie. Yao Tingling est né à Shanghai, dans une famille de notables dont il énumère en grand détail dans le cours du texte, les membres des différentes générations qu'il a connues, qui sont au nombre de 4, puisqu'il faut compter la génération de son grand-père et de ses grands-oncles, et surtout un grand-oncle très important, celle de ses parents et de ses oncles et tantes, lui-même ensuite, et ses nombreux cousins, et enfin quatrièmement, la génération de ses propres enfants. Donc il a l'arbre généalogique vivant, si vous voulez, dans l'autobiographie, compte quatre générations. Tous ces gens dont Yao Tingling nous explique, ou plutôt nous laisse reconstituer, et ça n'est pas toujours facile, les relations de parenté, les alliances, les adoptions, etc., tous ces gens forment une famille étendue dont l'arbre généalogique, comme je le disais, est passablement compliqué. Pour revenir à présent au lieu de l'action, il est important de rappeler qu'à la fin des Ming, Shanghai, loin d'être bien sûr la métropole que c'est devenue au XIXe siècle, que Shanghai n'était qu'une sous-préfecture, un xian, dépendant de la préfecture de Songjiang, qui était l'une des deux grandes préfectures du Bayangtze, donc ce qu'on appelle le delta du Yangtze, sur la rive sud du fleuve. Donc Songjiang, la grande préfecture dont dépendait Shanghai, et l'autre étant bien sûr Suzhou, que tout le monde connaît. Suzhou. Suzhou et Songjiang, ou comme on dit Susong, hein, en abrégé, étaient probablement le territoire le plus riche et le mieux connecté de l'Empire à cette époque. Mais contrairement à Suzhou, qui était une des capitales culturelles de la Chine, et qui se considérait elle-même en fait comme la capitale culturelle de la Chine, tout en étant un grand centre économique, Songjiang, ce qui était un peu plus à l'est, se signalait plutôt par sa prospérité commerciale. Cette prospérité commerciale reposait avant tout sur la culture du coton, qui s'était développée à grande échelle depuis la fin de l'époque mongole et qui, à la fin des Ming, était vraiment une culture à échelle industrielle, non seulement sur la culture du coton, mais également sur une sorte de proto-industrie textile dont les produits, considérés comme de très haute qualité, s'exportaient dans toute la Chine et en fait au-delà. À partir du moment où il y a eu également un commerce européen. Et dans le territoire de Songjiang, Shanghai était probablement la sous-préfecture la plus dynamique. Autrement dit, c'était au moment de la naissance de Yao Tingling, Shanghai était une ville importante et une ville riche. Cela étant, dans le courant de la... Je parlais de prospérité commerciale, mais dans le courant de la dynastie des Ming, cette prospérité commerciale avait commencé de se transmuer en influence politique par le biais de l'investissement que faisaient un certain nombre de familles dans l'éducation de leurs fils, ou de leurs fils les plus doués en tout cas, laquelle éducation se traduisait par un nombre croissant de succès aux examens mandarinaux, et donc par un nombre croissant de familles ayant accès au réseau de pouvoir, en dernière analyse, à l'échelle nationale. Et je signale au passage que tout ce processus de développement économique, culturel et politique de Shanghai à l'époque des Ming a été remarquablement bien étudié, bien décrit par mon collègue Timothy Brook dans le chapitre qu'il a rédigé sur ce sujet pour un ouvrage consacré à Xu Guangqi. Donc je vous ai donné cette référence. Xu Guangqi, il y a même ses dates dans la référence, 1562-1633, Xu Guangqi, qui était un des fils les plus glorieux de Shanghai. Donc c'était un haut fonctionnaire réformiste, dirais-je, de la fin des Ming. Donc un personnage très important, mais qui est surtout connu chez nous, en fait, parce qu'il s'était converti au christianisme. D'ailleurs, Yao Tingling, je le signale au passage, mentionne plusieurs fois Xu Guangqi, qui était mort bien avant sa naissance, dans le courant de son autobiographie, ou sa famille, ou sa résidence. Donc ça faisait partie vraiment du paysage de Shanghai. La famille Yao, où est né Yao Tingling, était donc une de ces familles shanghaïennes ayant accédé récemment à la notabilité lettrée. Au moment de sa naissance et pendant les décennies suivantes, on y rencontre en effet, c'est l'autobiographie qui nous l'apprend, on y rencontre quelques lettrés patentés, dirais-je, c'est-à-dire des gens qui avaient passé le premier degré des examens mandarinaux, ce qui ne les habilitait pas à entrer dans l'administration régulière, Il fallait passer l'examen provincial, qui était beaucoup plus difficile, mais ce qui en faisait indiscutablement des notables locaux, c'est-à-dire des membres de ce qu'on appelle parfois, en jargon sinologique, la gentry, ce qui désigne très exactement toutes les familles dans lesquelles il y a au moins un membre qui a passé les examens. Le seul fonctionnaire de la famille, en fait, est le grand-oncle de Yao Tingling, qui s'appelle Yao, donc le même Yao Yongqi. Donc Yao comme Yao Tingling, et voilà, Yong Ti. Yao Yong Ti, qui a passé le doctorat en 1598 et qui a eu une belle carrière dans l'administration centrale et locale des Ming, une carrière couronnée par 9 années dans le poste de commissaire administratif de la province du Zhejiang. Un poste, donc province voisine du Jiangsu, un poste où il s'est fait à l'évidence énormément d'argent. Yao Yongqi est de fait le grand homme de la famille dans l'autobiographie, et il le restera jusqu'à sa mort en 1659 à l'âge de 97 ans. Mais, précise la biographie, frais comme un gardon. Non seulement c'est le seul fonctionnaire, et haut fonctionnaire qui plus est, de la famille, mais il est très riche. C'est à l'évidence lui qui a édifié la fortune foncière et mobilière de la famille, et il est très généreux, toujours prêt à venir en aide à une parentèle aussi nombreuse qu'exigeante, et à régler les problèmes au sein de la famille, et il y en a beaucoup. Or, Yao Yongqi a perdu la plus grande partie de sa fortune au moment de la conquête mandchoue en 1645. Sa résidence à Shanghai a en effet été pillée par un parti de soldats supposé combattre l'envahisseur, donc qui appartenait aux forces des Ming du Sud, lesquels soldats ont emporté littéralement des charretées de lingots d'argent, de pierres précieuses, de bijoux et d'autres objets précieux. Apparemment, Yao Yongqi avait un penchant pour la thésaurisation par opposition à la consommation ostentatoire qui coûtait très très cher, mais qui était plutôt le style des grands notables de Suzhou, la fameuse capitale culturelle. Il y a dans le Lin Yanxi une description assez spectaculaire du pillage des trésors de Yao Yongqi et de l'état de la résidence après le passage de ses soldats. Une description dont j'avais d'ailleurs dit un mot dans mon cours en 1999, lorsque je m'intéressais aux méthodes d'enrichissement des fonctionnaires et aux problèmes de la corruption. Et non seulement de la corruption, mais encore de la perception de la corruption. Or, ce que j'avais souligné à ce moment, et c'est pour ça que j'avais cité cet exemple déjà, c'est que à cette époque, donc à la fin des Ming, aux yeux des habitants de Shanghai, et disait-on de toutes les sous-préfectures de Songjiang en général, s'être monstrueusement enrichi comme fonctionnaire par des procédés qui ne pouvaient relever que de l'exaction, n'entachait en aucune manière votre réputation, dès lors qu'une fois rentré au pays, et il semble que Yao Yongqi ait pris sa retraite et se soit réinstallé définitivement à Shanghai à la fin des années 1630, dès lors qu'une fois rentré au pays, vous vous comportiez en notable, généreux, aussi bien pour sa famille que pour sa communauté. Quoi qu'il en soit, si Yao Yongqi est resté un notable hautement estimé à Shanghai pendant les premières années des Qing, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est mort en 1659, donc une quinzaine d'années après le changement de régime, néanmoins, il avait déjà pris sa retraite plusieurs années avant la conquête. Il n'a donc pas eu, au moins, à se demander s'il fallait servir le nouveau régime, comme beaucoup de ses contemporains, à qui ça a causé des problèmes de conscience. Mais d'un autre côté, il était trop tard pour reprendre du service et, avec un peu de chance, pour refaire sa fortune. La conséquence pour son petit-neveu, Yao Tinglin, l'auteur de l'autobiographie, qui, comme ses parents et comme déjà son grand-père, en fait, c'est-à-dire le frère aîné de l'oncle Yongqi, comme ses parents et comme déjà son grand-père avait toujours vécu aux frais du grand-oncle de Yao Yongqi, la conséquence, c'est qu'il va lui falloir désormais gagner sa vie. Pendant les dernières années des Ming, Yao Tinglin avait été un adolescent déstabilisé par la mort précoce de son père, et trop souvent laissé à lui-même, et beaucoup plus enclin à s'amuser qu'à étudier. En 1645, donc au moment de la conquête mandchoue, il a alors 17 ans, il ne possède pas le moindre titre académique, il n'a pas même le statut d'écolier de Tongsheng, ce qui est un peu une sorte de lycéen, si vous voulez, reconnu, qui lui permettrait au moins d'essayer de se lancer dans la filière des examens au niveau local. Et aussi bien son manque de préparation, que la ruine de sa famille lui interdisent de toute façon de se risquer dans cette voie qui demande du temps et de l'argent. Le résultat, c'est que le Li Nianqi est, entre beaucoup d'autres choses, l'histoire de tous les petits métiers auxquels Yao Tingling s'est essayé. Il a été, d'abord, il a essayé d'être commerçant itinérant, de jouer sur les différences de prix entre des régions, entre des villes différentes. Il a perdu beaucoup d'argent. Il a été agriculteur, car la famille avait conservé quelques terres. Puis il a été pendant 10 ans employé de sous-préfecture, c'est-à-dire commis d'administration, 10 années donc qui le laissent en fait endetté. Puis de nouveau agriculteur, et en même temps, et en fait pour toute la, on pourrait dire quasiment la deuxième moitié de sa vie, non seulement agriculteur, mais en même temps instituteur rural. Et enfin, pendant toute cette période également, pour arrondir ses revenus et aussi pour rendre service à ses amis lorsqu'ils sont impliqués dans des procès, Yao Tingling était une sorte de conseiller juridique assez efficace, car il avait de toute évidence conservé pas mal de relations bien placées après son passage comme commis à la sous-préfecture de Shanghai. Tout ce qu'il raconte sur ses différentes activités et qu'il raconte en général de façon très précise est d'un intérêt incomparable pour l'histoire économique et sociale. Et d'ailleurs, plusieurs historiens en Chine et au Japon ont scruté le texte pour en extraire toutes les informations de ce type et en ont tiré, disons, un certain nombre de conclusions qualifiant de façon intéressante ou illustrant de façon intéressante des idées générales qu'on avait déjà. Et je mentionne ici que je ne vous propose pas une bibliographie complète, mais je mentionne quand même l'article de l'historienne japonaise Kishimoto Mio, qui a été publié en 1986 et qui est d'une certaine manière l'article fondateur sur le Li Nianqi. Et c'est comme ça que un certain nombre de gens, moi y compris, ont appris l'existence de ce texte en lisant cet article de Kishimoto. Et après tout, puisque nous y sommes, je mentionne aussi un article que j'ai publié moi-même en 2000 dans une revue de l'Academia Sinica à Taïwan, un article dans lequel je m'intéresse plus spécialement à des choses que Kishimoto n'a pas vraiment traitées, notamment au témoignage de Yao Tingling sur la chute des Ming et à ses années comme commis de sous-préfecture à Shanghai. En tout cas, peut-être que je mentionnerai au passage d'autres études, plus tard. En tout cas, il résulte de ce qui précède que même s'il venait d'une bonne famille et même s'il avait eu malgré tout une bonne éducation, le Yao Tingling adulte qui rédige son autobiographie est tout sauf un lettré, au sens plein du terme. Il n'en a ni le statut, ni probablement la culture, ni le style de vie, ni même, je crois, les intérêts. Si l'on fait peut-être exception du fait qu'il composait occasionnellement des poèmes de circonstances. Il cite quelques-uns de ses poèmes dans le courant de sa narration, et notamment dans la conclusion du troisième chapitre, qui est la fin de la partie principale de l'autobiographie, où il évoque une réunion avec ses amis pour célébrer son 60e anniversaire, justement. Et là, il cite non seulement un poème dont il dit modestement que c'est en langage vulgaire, dans lequel il évoque de façon un peu métaphorique sa vie passée, ses 60 années passées, mais il cite aussi les bouts rimés que lui ont offert les autres convives, puisque c'était forcément un banquet, et il précise de façon amusante, je les reproduis ici pour montrer que dans les villages aussi, la culture des lettres est florissante. Et c'est bien en effet de la culture au village qu'il s'agit ici. Yao Tingling exerce à cette époque de sa vie le métier d'instituteur dans son village, activité qu'il partage, comme je l'ai dit, avec l'exploitation d'une petite terre. Et lorsqu'il se désigne lui-même à un moment comme un lettré pauvre, un hanshu, un lettré froid, c'est une expression que j'aime bien, hanshu. Traduire par lettré grelottant, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a comment dire, une formation de lettré, mais qui est très pauvre. Donc, s'il se désigne ainsi, à un moment en tout cas de l'autobiographie, c'est plutôt, dirais-je, par métaphore. Il est en effet le descendant appauvri d'une famille lettrée, mais lui-même n'est alors qu'un homme du peuple ayant quelques lettres et composant occasionnellement quelques poèmes avec ses amis. Non seulement l'autobiographie de Yao Tingling n'est pas celle d'un lettré, donc, mais encore elle se singularise par des préoccupations que je dirais presque plébéiennes. Il n'y a pour ainsi dire pas de culture, au sens noble du mot, dans le récit de sa vie, surtout après la conquête mandchoue et la ruine de sa famille. Il n'y a que le souci du pain quotidien, les problèmes de famille, la crainte du fils, qu'il en est énormément question, et les réseaux de relations qui permettent de se protéger et de s'entraider. Et le texte est d'autant plus libre de ton et peu soucieux de style que, comme nous l'avons vu, il n'était aucunement destiné à passer dans le public. En bref, on ne saurait être plus éloigné des conventions de l'écriture autobiographique traditionnelle, tout ce que j'ai décrit dans mes précédents exposés. Mieux que cela, dans un souci de réalisme peut-être, Yao Tingling s'est épargné les contraintes du, je dirais peut-être, du décorum, et parfois même, on peut le dire, du bon goût, en se montrant d'une totale franchise sur son propre comportement, y compris son comportement le plus intime par endroits, sur ses aventures diverses, sur le caractère et sur les manières d'agir des membres de sa famille, et comme nous le verrons la prochaine fois, ce n'est pas toujours reluisant. Il y a beaucoup de sentiments et beaucoup d'émotions dans le Lin Yanqi, mais il n'y a aucune pose, aucune convention et aucun moralisme. Je dirais presque que la médiocrité de Yao Tingling, socialement parlant, est un gage de sa franchise. Comme il ne peut se prévaloir ni de la qualité de serviteur de l'État, ni de celle de grand notable, ni de celle d'intellectuel respecté, et qu'il n'est pas un membre éminent d'un grand clan également respecté, puisque le clan est désormais ruiné, il n'a pas lieu de se mettre en scène, paraît de toutes les qualités et de toutes les vertus qu'exigerait l'appartenance à de telles catégories. Dès lors, pourquoi avoir rédigé ce long texte, car c'est très long. Yao Tinglin nous dit lui-même avoir voulu mettre dans son autobiographie, outre les événements de sa propre vie, tout ce dont il a été lui-même témoin et tout ce qu'il a pu apprendre par des témoins de confiance, des témoins que très souvent il cite nommément pour donner plus de poids à ce qu'il raconte. Tout cela donc sur la période extrêmement riche en événements et surtout en changements pendant laquelle il a vécu. Je l'ai déjà dit, le thème du changement, du passage d'un monde disparu au monde où on vit maintenant, domine tout le texte. On pourrait presque dire que c'est cela qui donne son unité au Lin Yanqi. Yao Tingling en parle dans sa préface, je l'avais cité, il en parle dans des courtes préfaces qu'il donne à plusieurs chapitres, et enfin, il en parle dans une sorte d'annexe qu'il a ajoutée, donc à l'âge de 70 ans cette fois-ci, après avoir mis le point vraiment final à son autobiographie, une annexe qui se présente modestement comme une sorte d'addendum, mais qui est en fait un essai tout à fait extraordinaire sur justement tout ce qui a changé pendant la période pendant laquelle il a vécu. Cet appendice qui s'appelle Ti Shi Shui, donc c'est une expression très Shui, ça veut dire rassembler tout ce qu'on a oublié. C'est donc vraiment un addendum ou un. Oui, c'est ça, Shui. On dit parfois aussi Bui, donc compléter ce qui était laissé de côté. Je vous cite simplement l'introduction de cet appendice, enfin en traduction, un morceau. Dans lequel Yao Tingling écrit, je cite, « Pourquoi composer des... » Bon, je traduis « faits laissés de côté hein, » pour « ti shi shui ». Oui, parce que c'est « ti shi shui ». Donc, c'est dans mon récit, ce que j'ai laissé de côté dans mon récit de toutes ces affaires. Pourquoi composer des faits laissés de côté? Dans mon ouvrage chronique des années successives, donc Lin Yanqi, j'ai consigné en détail tout ce que j'ai personnellement vécu, tout ce que j'ai entendu de mes propres oreilles et tout ce que j'ai vu de mes propres yeux. Pourtant, il y a des points sur lesquels je n'ai pas été exhaustif, Par exemple, l'évolution des mœurs, littéralement la prospérité et le déclin, les changements dans le comportement des gens, ce qui n'existait pas autrefois et qui est tout d'un coup apparu, ce dont on se désintéressait dans le passé et dont on fait tout d'un coup grand cas. Bref, toutes sortes de changements imprévisibles dont il est inévitable que j'ai omis de les mentionner, dans mon récit. C'est pourquoi j'ai composé ces faits laissés de côté et les ai annexés à la fin de mon texte, afin que dans le futur, les lecteurs puissent en avoir une vue d'ensemble et dans l'espoir que cela les aidera dans leur expérience du monde. Et il emploie ce mot « che », c'est-à-dire que ce qui signifie littéralement « aller dans le monde ». Ce mot « che » qui signifie à la fois époque, monde, siècle, ou tout ce qu'on voudra, enfin pas tout ce qu'on voudra, mais ou génération aussi, et apparaît sans arrêt dans ce genre de propos. Et c'est pour dire qu'il y a l'ancien « che » et le nouveau, l'ancien monde et le nouveau monde. Et dans cette annexe, donc, Yao Tingling procède à une énumération minutieuse de tout ce qui a changé, et parfois de façon spectaculaire, entre la période de son adolescence et son âge mûr. Le vêtement, comme je l'ai mentionné la dernière fois, les Mandchous ont obligé leur nouveau sujet à adopter la coiffure, enfin la façon de couper ses cheveux, et le vêtement qu'ils ont introduit en Chine au moment de la conquête. Le vêtement, donc, les habitudes de table, la consommation, il dit qu'on consomme plus et mieux qu'avant, et que plus de gens en profitent, les relations, ceci il le dit donc exactement à la fin du XVIIe siècle, hein, après un demi-siècle de régime mandchou, les relations avec les autorités, il note que les militaires sont beaucoup plus respectés qu'avant, alors que sous les Ming, c'était toujours les civils qui avaient le pas, les impôts, on en paye moins et c'est mieux organisé, et pourtant le texte parle énormément d'exaction fiscale, ou en tout cas de brutalité fiscale, l'administration de la justice, dont il dit qu'elle est bien plus rapide et bien plus efficace que sous les Ming, et j'en passe. En cela, donc, on peut dire que le Li Nianqi non seulement relève directement du genre des choses vues et entendues, donc de Tianwen, mais encore qu'il manifeste, au-delà de cette volonté de témoigner, ce qu'on pourrait bien appeler une certaine conscience historique. La conscience d'avoir vécu une époque unique, un véritable tournant, il emploie à un certain point le mot Geige, qui vraiment est quasiment une révolution, un véritable tournant dont il considère urgent de rendre compte dans la limite de ses propres observations et de ses propres moyens. À tel point que ce témoignage pour l'histoire a au moins autant d'importance dans l'économie générale du texte et sans doute également aux yeux de l'auteur que le récit au jour le jour de ses propres tribulations. Je ne saurais dire si c'est un cas unique dans l'histoire de l'autobiographie en Chine, mais c'est certainement un cas très rare. Donc, voilà en gros les considérations générales que je voulais vous donner sur cette autobiographie de Yao Tingling. Je dirais encore un mot de la mentalité, encore quelques précisions sur la mentalité que ça révèle de la part de l'auteur, également sur le langage. Et puis, donc, j'aborderai la question de ce qu'on y trouve sur les préoccupations des gens ordinaires, sur la famille, la vie intime, l'économie domestique et toutes ces choses, qui sont donc un des deux grands aspects du témoignage de Li Nianqi, l'autre étant, mais je le garde pour plus tard, l'autre étant les grands événements historiques dont l'auteur a été également témoin. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.